Bonne soirée à toutes celles et ceux avec qui j'ai passé cette journée et toutes celles et ceux avec qui nous allons passer ensemble la soirée pour ces retrouvailles autour de Yem. Accueillis donc par Armel et Pepo Digan, au nom desquels nous vous souhaitons la bienvenue aussi. Merci beaucoup. Yem, on se réunit là pendant 3 jours ensemble. Les conteurs, conteuses que vous allez entendre ce soir, ceux pour certains d'entre vous, je vois qui les ont déjà entendus hier. Il y en a d'autres qui interviendront demain, puis il y en a qui ne sont pas là, puisqu'on est à peu près une cinquantaine d'artistes de la parole. Soit avoir déjà construit notre récit Yéman, notre récit de Yem. Et je dis Yéman parce que Yem, sa première phrase en français, ça a été « Moi, j'aime bien ça ». Yem, sa première phrase, son premier mot, ça a été pour reconnaître ce que Yem est bien, fondant son identité sur un acte d'amour, de relation, de reliaison. Et donc il y a 24 récits qui existent déjà, que vous pouvez écouter sur yem.fr, yaim.fr. Il y en a d'autres qui arrivent, vous avez compris, qui sont déjà terminés, qu'il faut qu'on enregistre bientôt. Il y en a qu'on est en train de découvrir, qu'on a reçu ce matin, que d'autres sont en train de construire. Enfin bref, vous avez compris, c'est un projet collectif auquel on essaye d'essayer de donner une forme. Vous voyez où on en est, hein. On se laisse inspirer par ce qu'il y a de plus aimant en chacun d'entre nous. Et je laisse tout de suite la parole à Pepito. Non, je ne laisse pas. Si, la parole, je la laisse à Pepito. Et le geste, c'est la parole que j'ai. Je me trompe un peu. C'est le geste que je laisse à Céline et la parole que je laisse à Pepito, parce qu'on va écouter, regarder, voir en tout cas une histoire. Vous allez comprendre ça tout de suite. Merci.
Super. Les jeunes, j'ai vu que le plus jeune qui est arrivé, vous pouvez vous approcher si vous ne voyez pas trop bien du... Sentez-vous libre. En cours d'histoire, si vous avez envie, vous pouvez venir vous asseoir devant. Ça va, on entend bien? Ça fait plaisir de vous voir. Si vous êtes là, c'est que vous êtes optimiste. C'est important. Est-ce que vous pensez, dans la vie, être optimiste? Il y a beaucoup d'optimistes.
Oui.
Est-ce qu'il y en a qui sont pessimistes?
Ça dépend des jours.
Voilà, oui, on passe par une vue, un truc et l'autre. C'est comme un yo-yo, la vie. Mais dans les histoires, c'est plus carré. Il y avait un couple qui avait 2 fils. Il y en a un qui était optimiste et l'autre qui était pessimiste. Il voyait tout en noir. Alors que celui qui était optimiste, il voyait tout en bleu. Et les parents ne savaient pas quoi faire pour celui qui était pessimiste. L'autre, il ne s'en occupait pas puisqu'il allait bien. Alors il faisait venir des musiciens. On va en entendre ce soir. Il faisait venir des conteurs, il faisait venir des chanteurs, il venait venir du public pour faire la fête. Mais le fils s'enfermait toujours dans sa chambre, il ne voulait voir personne. Les parents étaient désespérés. Voilà. Et le temps a passé. Quand ils ont eu 18 ans, les parents se sont dit, il faut qu'on leur fasse un cadeau qui va les lancer dans leur vie d'adulte. Alors, ils ont ramassé tout l'argent qu'ils avaient. Ils n'avaient pas grand-chose, ils n'étaient pas très riches. Et le père est allé à la ville pour chercher un cadeau pour leur fils pessimiste, et puis pour l'autre aussi, bien sûr. Alors, ils sont allés dans une bijouterie. Oh là là, il y avait une bijouterie incroyable. Il y avait des montres en argent. Oh là là. Le père a dit, c'est exactement ça qu'il nous faut. Pour le fils pessimiste, ça va lui redonner le moral. Une belle montre en argent magnifique. Alors ils l'ont acheté. Là, ils étaient contents, mais ils avaient plus de sous. Oui, complètement à sec. Ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus dépensé pour la montre. Alors ils sont partis. Et puis là, sur le chemin, ils ont trouvé un crottin de cheval. Alors ils l'ont ramassé, ils l'ont mis dans un beau papier doré, et puis ils sont allés déposer les deux cadeaux devant les portes des chambres de leur fils. Et ils sont allés se coucher. Et au petit matin, le père est parti faire ses activités, et le soir, quand il est rentré, il avait hâte de savoir si ça avait plu, le cadeau, surtout au fils pessimiste. Et alors, quand il est arrivé tout près de sa maison, il y avait la voisine. Elle était un peu... Elle était au courant de tout, la voisine. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils sont au courant de tout, là. Hein, il y a des gens, si on ne sait pas pourquoi, ils sont au courant de tout.
Oui, une commère, oui, c'est ça.
Et alors, alors le père a dit, hé, tu as vu mon fils? Elle a dit oui. Ton fils pessimiste, oh là là, il n'avait pas le moral. Il a dit, mes parents m'ont offert une montre en argent. Elle est lourde. Elle pèse. Je suis sans arrêt obligé de la regarder. Je vois les secondes, les minutes, les heures qui me rapprochent de la mort. C'est vraiment le pire cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Le père était désespérados.
Tu sais, en espagnol, des desesperos, des desamparados. Il n'en pouvait plus.
Il a dit, et l'autre? Elle a dit, l'autre? Oh, il était heureux, il sautait dans la rue. Il disait, mes parents m'ont offert un cheval. Mais le cheval s'est sauvé, il faut que j'aille le chercher. Et bien, il est parti, on ne l'a jamais revu. Mais si un jour il revient, il aura plein d'histoires aimantes à vous raconter.
C'è una città di questo mondo, ma così bella. Ma così strana che pare un gioco di fata morgana o una visione di cuor profondo. Adiluppata in un roseo bello, sta con sue chiese, palazzi, giardini, tutta sospesa tra due turchini, quello del cielo, quello del mare. Je m'appelle Jimmy. Je suis née ce matin, en Italie, à Venise, entre deux bleus, celui du ciel, celui de la mer. Hier, j'étais née en Écosse, dans un cabaret. Il y avait un type qui racontait des histoires. Il courait après un cheval. Je l'ai suivi, je me suis endormie dans une barque. Quand je me suis réveillée, j'avais une montre au poignet, une montre en argent, qui était lourde, tellement lourde, que je l'ai jetée. Je m'en suis débarrassée, et puis je me suis sentie libre. Je me suis sentie libre de revivre, de renaître, d'être une autre, d'être un bout de toi, un bout de toi, un peu de cette poussière qu'on voit briller là, dans la lumière. Et si je peux vous donner à chacun un petit bout de miroir, peut-être que... ensemble, on pourra voir le monde. Persuadé de détenir toutes les vérités, d'avoir toutes les qualités et surtout, surtout, d'avoir toujours raison. Que cela vienne de son rang, de son caractère, il ne supporte pas qu'on le contredise. Et si par malheur ça arrive, il est capable, de toute sa hauteur, d'ordonner des punitions fatales. Toujours avec calme et sans jamais crier. Vous imaginez donc bien que toutes les personnes qui l'entourent vont invariablement dans son sens. Ce roi a 3 filles. Il les a faites éduquer par les plus grands sages du pays, tous domaines confondus, mathématiques, philosophie, littérature, sciences, arithmétique. Elles se sont donc formées un esprit critique. Mais les 2 premières, elles sont tellement effrayées par leur père qu'elles lui donnent toujours raison. Alors que la 3e, pas forcément. Et c'est un soir, à la fin d'une de ces innombrables leçons de morale, que le roi a une conclusion des plus surprenantes. Ça s'est passé comme ça. Ah oui. Le roi a une barbichette et il aime bien la triturer parce que ça lui donne un air intelligent. Mes filles, après moult réflexions, j'en viens à la conclusion que votre vie dépend de ma propre volonté. Je vous ai mis au monde, je vous éduque. Je vous héberge, je vous loge. Je pense donc que votre sort est entre mes mains. Les 2 premières filles, bien sûr, l'approuvent, mais pas la 3e. Et elle lui répond : non, père. Certes, de par ma naissance, j'obéis aux lois de ce royaume, mais ma vie m'appartient. Et mon sort est entre mes mains. Tu vas voir si ta vie t'appartient. Et le roi fait jeter sa fille en prison. Oui. Sa propre fille. Il n'y a pas de pitié chez les tyrans. Et la princesse se retrouve derrière les barreaux dans sa cellule. Et elle s'y sent bien. Elle s'y sent bien parce que là, au moins, elle peut prendre le temps. Elle prend le temps d'écouter, loin du brouhaha du palais. Elle écoute son cœur, elle écoute sa respiration. Elle profite du silence. Parfois, elle écoute la mélodie des barreaux. Chaque note que ça fait. Elle se retrouve seule face à elle-même et sa sagesse grandit de jour en jour. Et puis un matin, le roi daigne lui rendre visite. Avoue que j'ai raison. Avoue que si tu es ici, c'est par ma propre volonté. Dis que j'ai raison, je te libère. Et tu pourras sortir, retrouver tes sœurs. Vas-y. Non, père. ma propre volonté à moi. C'est vrai, je n'aurais qu'à dire que tu as raison, mais je refuse. Car ma vie m'appartient et mon sort est entre mes mains. Le roi, à ce moment-là, il est secrètement déçu. Il essaye donc de contenir sa colère. Mais c'est pas simple. Tu ne veux pas dire que j'ai raison ? Très bien. Eh bien, tu vas aller moisir dans un endroit pour les gens faits comme toi. Un endroit pour les bannis. Un endroit pour les rebelles. Un endroit pour celles dont on ne veut plus. Et surtout, surtout, que je ne te revois jamais. Le roi fait abandonner sa fille par l'escorte de son père dans le désert. Généreux. Et puis un jour, la princesse est tranquillement au bord de l'oasis, les pieds dans l'eau, le visage tourné vers le soleil, en train de profiter quand, tout d'un coup, elle entend au loin un champ sera trop proche. انا بنت رمال الصحراء هضي بابي وقصري انا بنت جبال ورمال وانا قادره على مجادي قولوا هادي جبال ورمال انا بنت الشمس وتجوي روري الى كل مكان ونحيا دون علاوة جهاتي الأرض. Je suis fille du désert et le sable est mon royaume. Je suis fille des dunes et je peux toutes les franchir. Je suis fille du soleil qui me guide vers de nouveaux horizons. Quand la princesse se réveille, elle ouvre les yeux et elle voit devant elle une jeune femme. Une jeune femme qui lui sourit. Elle, elle est fille de chamelier. Et elle aussi, elle a été bannie car elle a refusé de se marier. Parfois, les âmes et les cœurs se reconnaissent et elles décident de ne plus jamais se quitter. Et dès le lendemain matin, elles s'y mettent. Pierre après pierre, elles construisent les quatre premiers murs de leur maison. Et pierre après pierre, elles construisent d'autres maisons pour les futurs bannis, pour les futurs rebelles, les personnes qui vont venir les rejoindre. Et pierre après pierre, quand elles arrivent, elles construisent encore des maisons, et encore des maisons, et encore des maisons, et jaillit alors dans le désert une ville où règne la paix et l'harmonie. Et vous savez ce qu'on fait dans les vignes où règne la paix et l'harmonie? Eh bien, on fait la fête. Ça vous dit de taper dans les mains?
Ouais.
Impossible.
Non.
Je vais m'y rendre. Le roi se fait annoncer. Il arrive, il se met devant la maison des deux jeunes femmes et en signe de respect, il courbe l'échine. Elle a dérobé et il aperçoit leur visage et il faut dire quand même qu'il y en a un des deux qui lui dit vaguement quelque chose. Il a le regard sur la terre battue. Quand la princesse s'avance, elle lui prend le menton dans la main, elle le relève et elle lui dit « Tu vois, père, mon sort est bien entre mes mains. »
Thank you.
Ah ben dis donc, on vous voit pas ce soir. Hier, on vous voyait, nous. Bon, ça va?
Ça va.
Comme il faut, il fait chaud.
Oh. Voilà. Vous êtes, vous êtes ça?
Oui, oui. Ouais. Comme il fait chaud dans le désert, je vous emmène ailleurs. Genre, hey, je pourrais vous emmener dans la Creuse. Comme on y est déjà.
On n'est pas dans la Creuse.
Néo sur Creuse, c'est pas dans la Creuse.
On est dans l'Indre. On est dans l'Indre.
Oui, à Néo sur Creuse.
Ça ressemble
pas
à
la Creuse. Ça fait trois jours qu'on croit qu'on est dans la Creuse. Tu peux aller plus loin. Je vais, de toute façon, je vous emmène pas en Creuse, vous êtes trop près. Je vous emmène en Bretagne.
Ouais.
Oui. Mais bon, tant qu'à faire, on est dans les histoires. Donc, on n'est même plus en 2025. On serait genre, il n'y en a pas beaucoup là. Genre, les années 50, quoi, après la guerre, quoi. D'accord ? Mm-hmm. Ça vous va ?
Ça nous va.
Oh ben c'est en Bretagne, c'est l'histoire d'Angèle. Et donc, ouais, après la guerre, quoi. Angèle, elle vient d'être nommée institutrice dans un petit village breton à l'école laïque. Alors ça, les gens bretagne, c'est quand même pas terrible. Mais non seulement Angèle vient d'être nommée à l'école laïque, mais en plus, on va dire 1950, en plus, Angèle est mère célibataire d'un bébé de 6 mois. En plus, une rencontre amoureuse si furtive que de la vie d'Angèle, c'est un coup du Saint-Esprit. Instit laïque, un miracle. Quoi qu'il en soit, la tradition communale voulait que le village se sépare en deux le soir de Noël. Les partisans de l'école privée,
oui,
allez, vous avez la chance. Partisans de l'école privée à la messe de minuit. Les pauvres, vous c'est pas mal non plus. Partisans de l'école publique. Direction salle des fêtes,
ouais.
Spectacle gratuit, avec arrivée du Père Noël en charrette de croton hydrophile pour faire la neige. Père Noël joué jusqu'à présent par l'instituteur, mais il venait de partir à la retraite, donc c'est Angèle qui l'avait remplacé. Alors, qui cette année ferait le Père Noël? Total suspect. Côté école privée, la grande fierté de la paroisse, c'était sa crèche vivante. Une vraie vache qui faisait le bœuf. Un vrai âne. Des vrais bergers, des vrais rois mages. Tous les seigneurs, on les appelait les septièmes. Tous les septièmes et les plus grands huitièmes avaient été enrôlés pour l'occasion. Mais surtout, un vrai Jésus. Alors là, donc je leur donne un conseil. Si vous voulez faire ça dans votre commune, le petit Jésus, ne le prenez pas trop petit. Non, parce que, bon, pour avoir peur du bruit, des lumières, il faut dire que l'harmonium de Mademoiselle Jean-Bec se déchaînait dans l'église, magnifiquement illuminée. Il ne faut pas le prendre non plus trop grand, le petit Jésus, qui ne se sauve pas sans qu'il est paille. Si suis-moi, c'est impeccable. Et là, devant la pénurie de bébés de cet âge-là dans la commune, qui c'est qu'avait prêté le sien, je vous le donne en mille.
Angèle.
la nouvelle institutrice de l'école laïque. Certains paroissiens ont crié au scandale. Un enfant de filleur futur élève de l'école du diable. Mais d'autres paroissiens, comme vous, plus ouverts, plus tolérants, télérama, ont décrété que Dieu aimait tous les enfants puisqu'ils étaient innocents. Et de toute façon, cette année, on n'avait pas le choix. Tout s'est bien passé jusqu'à la communion. Le petit Jésus a beaucoup aimé les cantiques, l'harmonium, les lumières, le défilé de l'Eucharistie, parce que t'as du monde qui communie le jour-là, ça bouchonnait. Du coup, le petit Jésus était là, alors les gens ils stationnaient comme ça, j'ai dit, il était venu le petit Jésus. Justement, c'est quand les gens qui avaient communié, quand ils sont retournés à leur place, est-ce que le petit Jésus a trouvé le temps? Est-ce que la vache qui faisait le bœuf a approché sa grosse tête trop près? Ça peut faire peur. En tout cas, le petit Jésus s'est mis à pleurer, doucement, et puis de plus en plus fort. La CM2 redoublante de l'école des sœurs qui était la Sainte Vierge a eu beau le prendre dans ses bras, le bercer. Le petit Jésus ne voulait rien savoir. Le curé ne pouvait plus en placer une. Alors, le curé a glissé quelques mots à l'oreille de l'enfant de cœur qui s'est sauvé par la petite porte de côté. Jésus continuait à brailler. Alors, la chorale, vous pouvez les aider. La chorale a entonné un chant pour couvrir ses pleurs. Je démarre pour les paroles et vous pouvez les aider. Il était le petit innocent, joue bronze au bois et nous casse les burettes.
Il était le petit innocent, chantons tous son son boucan. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la venait d'entrer dans l'église, précédé de l'enfant de cœur en âge. Le Père Noël traversait la grande allée, soulevant son manteau rouge pour courir plus vite, laissant entrevoir des bas nylons et des souliers vermoulus. On a vu le Père Noël ouvrir le portillon de la crèche, s'asseoir sur le trépied de la Vierge Marie. On a vu le Père Noël passer sa barbe par derrière son épaule, déboutonner son manteau pour offrir son sein au petit Jésus qui aussitôt se mit à téter. Le curé a recommencé son sermon, la sueur perlant sur son front, les yeux brillants, fixés sur l'opulente poitrine de la nouvelle Vierge Marie. Un sermon qui parlait d'amour. 3 mois après, le curé avait défroqué. 6 mois plus tard, Angèle et le curé, ils étaient mariés. Bon, c'est comme ça qu'Angèle a rencontré son mari. C'est comme ça que pour une fois, et c'est pas si souvent que ça, l'école publique s'est mélangée avec l'école privée. Par contre, à ma connaissance, c'est la seule fois qu'on a vu le Père Noël Amen.
La musique résonne dans le camion. Au volant, il y a Chicha, un manouche, à côté, il y a sa femme, sa Romy, à l'arrière, les deux gamins. C'est le mois de mai. Ils arrivent au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils tournent sur la gauche pour se diriger direct sur le terrain de camping. Ils ont de la chance. Pour le pèlerinage de Sainte-Marie-de-la-Mer, le camping est ouvert pour les voyageurs. Yeah! C'est la place pour les forains, avec les grosses voitures, les gros camions et les caravanes à tiroirs. Chicha y va plus loin, son espace est réservé. On fait signe à Chicha, on le connaît bien. Lui, quand il arrive au Sainte-Marie-de-la-Mer, il parle pas, il salue personne. Juste il cale la caravane et puis il s'en va. Il traverse le camping et marche sur le bord de la mer. Où avant, quand il était petit, il y avait des roulottes stationnées là. Quelque part, il est devant l'emplacement de la roulotte de Pépé Lafleur. Un barbu, fier de la plus belle roulotte qu'on ait jamais vue. Avec des fleurs, avec des sculptures, avec des éclats de miroir. Il posait. Alors Chicha, une pensée pour ce vieux Pépé Lafleur. Il continue de longer la plage, la petite rue qui mène au cœur de ville des Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est dans cette rue qu'il croise la mère de Jonathan, celle qui court la gitane derrière tout le monde pour les gâcher, pour accrocher une petite croix vers les lignes de la main. Et vous, vous vous laissez faire parce que c'est jour de fête. Alors vous ouvrez le porte-monnaie, erreur. Vous l'ouvrez devant la mère de Jonathan, à l'habitude de repérer le billet. Vous, vous pensiez lui donner quelques petites pièces. Alors on tutoie tout la plus triste. Et moi j'ai des enfants à nourrir, enfin vous sortez toute sa litanie. Et vous, parce que c'est la fête, vous sortez un billet. Vous avez le cœur léger. Mais là, ce matin-là, à peine un signe à Chicha. Elle le connaît bien, son cousin. Et lui, il arrive sur la place des Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y a l'église. Il contourne. Il va derrière. Une petite porte en bois. C'est celle-ci qui l'ouvre. Des escaliers de bois. Les marches sont raides. Deux marches et déjà il sent la chaleur. Déjà il y a la lumière dorée. Trois marches encore. Il arrive dans la crypte. Lumière dorée, des centaines de bougies sont allumées. Chaleur suffocante, fumée qui pose son nuage. Et tout au fond, il y a la statue de Sainte Sarah, la Vierge Noire, la patronne des voyageurs. Et Chicha s'approche d'elle. Il compte, elle a bien ses cinq robes, toutes brodées d'or et d'argent, son diadème et ses voilages. Chicha caresse la joue et remercie Sainte Sarah de veiller sur nous, les voyageurs, de nous protéger pour être toujours sur la bonne route. Et de sa poche, il sort des billets, des papiers pliés qu'il glisse dans la boîte à côté de la statue de bois noir. Sur tes papiers, il y a simplement un baiser au rouge vif. C'est un merci d'avoir protégé les petits. Des fleurs froissées, un vieux flacon de parfum, tout trouve sa place. Tisha regarde Sansa et s'agenouille là sur les dalles de pierre à ses pieds. Il se perd dans ses prières et à un moment précis exactement, il entend la voix de sa tante qui lui a chaque année raconté l'histoire. Et elle lui disait: de l'autre côté de la Méditerranée, dans un pays très lointain, il y a une ville qu'on appelle Jérusalem. De l'autre côté de la Méditerranée, Tchitcha, dans un pays très lointain, il y a une ville qu'on appelle Jérusalem. Un matin de printemps, les hommes se sont réveillés, le cœur serré, les poings fermés et le regard noir, ils criaient à l'imposture. Dans cette ville nommée Jérusalem, un matin de printemps, des hommes et des femmes se sont réveillés, le cœur ouvert, les yeux clairs et brillants. Ils criaient au miracle, Jésus, fils de Dieu, ressuscité. Ces hommes et ces femmes sont battus, se sont déchirés. Et un matin, des hommes au regard sombre ont attrapé trois femmes, Marie Salomé, Marie Jacobé et Marie Madeleine. Ils les ont tirés sur le bord de la plage. Elles étaient là devant une embarcation. Ils les ont poussées, forcées à monter sur cette barque de bois. Sur le bout de la plage, elles ont vu arriver Sarah. Sarah à la peau noire, leur fille qu'elles avaient adoptée, qui n'avait plus ni père ni mère. Et Sarah a couru le long de la plage. Elle a dit: attendez-moi, je pars avec vous. Elle a sauté légère dans la barque pour rejoindre ses trois mères, Marie Salomé, Marie Jacobé, Marie Madeleine. Les hommes, avec des rires méchants, ont poussé la barque. Les flots ont emmené toujours plus. Et les femmes priaient et s'en remettaient à Dieu qui n'allait pas les abandonner. Et les femmes chantaient leurs prières pour Dieu. Il n'allait pas les abandonner. Les jours et les nuits ont passé, elle priait, sous le soleil puissant, sous la lune glaçante, elle priait et elle chantait, Dieu ne va pas nous abandonner. Et un matin, le ciel est devenu gris, le ciel est devenu noir, de lourds nuages de pluie, le vent s'est levé, les vagues ont gonflé. Elles sont devenues écumantes et la pluie est tombée de grosses gouttes. Les trois mères priaient, criaient, chantaient à Dieu de ne pas les abandonner. Elles ont trempé leurs bras jusqu'aux épaules dans l'eau pour essayer de retrouver un équilibre alors qu'elles chaviraient prêtes à se renverser. Et Sarah regardait ces trois mères, leur douleur, leur détresse, leur désespoir. Sarah leur a dit: il faut alléger, il faut alléger. Elle est enroulée, un épais manteau de laine bleue. Alors elle l'a jeté par-dessus la barque. Et dès que le manteau a touché la mer, tout s'est apaisé. Les vagues caressait. Au loin, ai-je vu un éclair vert, attiré par la terre. Elles ont vu les eaux claires, le sable blanc. Elles ont sauté de la barque. Elles avaient de l'eau jusqu'à la taille, l'eau était chaude, le sable était doux. Elles ont tiré l'embarcation et sont arrivées une vaste plaine. Des hautes herbes balayées par le vent. De grands oiseaux traversaient le ciel. Marie-Salomé, Marie-Jacobée et Marie-Madeleine priaient et remerciaient Dieu de ne pas les avoir abandonnés. Sarah, elle goûtait toutes les plantes, elle cueillait les tiges hautes, elle tressait pour faire des abris pour ses grands-mères. Elle goûtait, elle leur disait « Marchez, ça va donner de la force. Si Dieu nous a laissés en vie, il faut vivre. » Et elle les tirait, elle les poussait. Sarah, agenouillée sur la terre, perdue dans ses pensées, sans vraiment en prendre garde, grattait la terre. Du bout des doigts, elle a senti une pierre. Sans vraiment en prendre garde, ses doigts ont contourné la pierre. Sans vraiment en prendre garde, elle a dessiné la pierre. Quand ses doigts ont touché le fond du creux, il y avait de l'eau. Quelques gouttes, c'est là, qui tombaient au creux de sa main. Elle a goûté. C'était de l'eau douce. Elle a rempli. Elle a donné à boire. Et ses trois mères ont crié au miracle. Et Sarah a dit, non, c'est pas un miracle. C'est juste la force de la vie. Et le vent a porté la nouvelle. Que des femmes venues de l'autre côté de la Méditerranée ont quelque chose à dire. Alors elles ont raconté et se sont installées autour de la source. Et puis une église est venue autour de la source. Chicha se relève. Une dernière caresse sur la joue de la statue de bois noir de Sainte Sarah, Sarah la Cali. Merci de veiller sur nous, de veiller sur notre bonne route, la Lachodron. Et puis l'allumer des bougies. Pour tous ceux qui ne pourraient pas venir cette année au pèlerinage, il a allumé des bougies. Pour toute sa famille et pour lui. Et il a fait demi-tour. Il est sorti de la crypte et il a traversé l'église. Il est sorti par la porte, la grande porte. Il s'est trouvé sur la place, en plein soleil. En face de lui, il y avait sa femme, sa Romney, et c'est jamais ses enfants qui l'attendaient. Se sentir vivant, c'est la force de la vie qui nous rassemble ce soir. C'est la force de la vie qui nous rassemble tous les diamants.
Mais bouche. Souvent, on se regarde et on se dit « Mais c'est qui Yem ? Il est où ?» Et moi, je me demande, est-ce que Yem serait né d'un rêve ? Mais pas de n'importe quel rêve. Vous savez, de ce rêve-là. Ce rêve qu'on a de plus précieux. Imaginons qu'au moment où un enfant naît, il reçoit à la racine de son cœur une semence. Une semence minuscule, mais lumineuse, une semence de yaourt. Et que dans cette semence-là, il y a un petit être qui dort. Et l'enfant grandit, et le petit être grandit toujours, mais il dort encore. Et un jour, ça arrive. L'enfant a 7 ans. Il sent une odeur. C'est l'odeur d'un rêve. Et ce que dit ce rêve parle directement à son cœur. Alors, il le respire fort, ce rêve. Il le respire jusqu'à la racine de son cœur. Jusqu'à la semence de yaourt. Et le petit être qui dort se réveille. Et fait germer la semence. La semence devient plante, devient fruit. Et du fruit sort le petit être. Il s'appelle Yem. Il a 7 ans. Il habite le cœur d'un enfant. Et il vient de naître. Et à partir de ce jour, Yem ne se nourrit que de ce rêve. Mais attention, un rêve c'est fragile. Ça peut grandir, mais ça peut ratisser. Ça peut même mourir. Par exemple, un jour, il y a un homme qui attrape un rêve. Ce rêve lui dit « Dépasse-toi ». Alors, il se dit qu'il va aller sur le mont Everest. Mais il réfléchit, le mont Everest c'est quand même loin et puis... Je pourrais ne plus respirer si je suis en haut. Après tout, je pourrais aller sur le Mont Blanc. Non. C'est quand même, il fait froid en ce moment. Bon, j'habite à Néon-sur-Creuse et je suis dans une maison au deuxième étage. Après tout, tous les jours, je monte des escaliers. C'est un peu comme monter un sommet. Ah, finalement, il est fatigué. Il installe sa chambre au rez-de-chaussée. Et pendant ce temps, son rêve pourrit. Il y a aussi cette femme. Elle habite à Paris. Elle attrape un rêve qui lui dit voyage. Elle plie son rêve et elle le range dans sa carte de passe de métro. Et elle fait toujours le même trajet. Mais c'est dangereux quand même de suivre son rêve. Moi, j'ai appris qu'il y a une racine du mot rêve qui vient de Esvo, et vous savez ce que ça veut dire Esvo ? Vagabond. Ça veut dire que suivre son rêve, ce serait comme suivre un vagabond, mais on ne sait pas où il va. C'est dangereux. Un jour, il y a un petit garçon qui attrape un rêve. Et ce rêve lui dit « Sois libre ». Et ce rêve parle directement à son cœur. Alors, il en parle à tous les gens qui sont autour de lui, tous les adultes, les grandes personnes. Regarde mon rêve comme il est beau. Mais on lui dit, attends. Pour être libre, il faut avoir. Quand tu auras beaucoup, tu seras beaucoup libre. Tout le monde le sait. Alors il plie son rêve, il le regarde, il lui dit, on se retrouvera quand j'aurai beaucoup. Il le range dans sa poche. Et à partir de ce moment, le garçon calcule tout ce qu'il a. Ses Lego, ses chaussettes trouées, ses fourchettes, c'est tout ce qu'il rencontre. Il le collectionne, il le compte. Et quand il devient adulte, il devient banquier. Il achète un grand manteau, il plie son rêve dans son porte-monnaie. C'est comme ça que le rêve d'être libre se retrouve dans le porte-monnaie de la poche du manteau d'un banquier. Il habite au 27e étage d'une tour. Il n'invite personne chez lui parce que chez lui, il a un canapé Louis XIV qu'il ne faut surtout pas déplacer. Un jour, il y a une femme qui emménage juste en face de chez lui. Elle aussi, elle a un rêve. Elle aussi, elle le met dans sa poche. Mais ses poches sont trouées. Alors son rêve, à chaque fois, s'échappe. Et son rêve, c'est d'aimer. Et quand elle rencontre son voisin, le banquier, le rêve s'échappe et se pose sur la tête du banquier. Et elle se met à aimer son voisin, le banquier. Alors, je ne sais pas quelle technique vous avez quand vous tombez amoureux. Il y en a qui ne parlent pas et il y en a qui parlent beaucoup. Elle, elle fait partie de la deuxième catégorie. Elle se met à lui parler. Elle lui parle de tout ce qu'elle aime, de jours de pluie, de brocolis, de produits congelés. Et lui, il est poli. Donc, il reste là, mais il a besoin de rentabiliser son temps. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il compte tous les mots qu'elle dit. Ça l'entraîne à bien chiffrer. Et puis quand elle se met à postillonner, parce que ça arrive, et ben il suit toutes les trajectoires de ses postillons et ça lui permet de réviser sa géométrie. Pour lui, ce qui compte, c'est que le jour d'aujourd'hui soit exactement comme le jour d'hier. Parce qu'un jour qui serait différent déprogrammerait tous les jours d'après. Et ben ce jour-là arriva. Le banquier, ça me fait même bégayer cette histoire-là. Il était de très très mauvaise humeur parce qu'il manquait une facture d'électricité dans son courrier. Ça sonne à la porte. Il se dit que c'est le facteur qui vient s'excuser. Mais non, c'est sa voisine qui vient avec deux assiettes de canards au navet qu'elle avait tendrement décongelées. Elle rentre à l'intérieur. Elle va dans le salon. Et vous savez où elle s'assoit ? Le canapé Louis XIV, oui. Alors lui, il prend une chaise dans la cuisine, mais il est poli, il s'assoit en face d'elle. Et elle commence à parler. Et lui, il compte. Il compte. Les postillons arrivent, et puis il compte, il trahit, il regarde toutes les trajectoires. Et puis tout d'un coup, ça arrive, elle a plus de salive. Et il se regarde. Et dans cet instant de silence-là, lui, il n'a plus rien à compter. Et c'est là que le rêve qui était pensé dans son porte-monnaie s'échappe et se pose sur la tête de la voisine. Et les deux rêves se regardent, le rêve d'être libre et le rêve d'aimer. Ils se rapprochent, ils dansent ensemble, ils deviennent un seul rêve, leur rêve à tous les deux. Le rêve d'être libre d'aimer. Et ce temps aurait pu durer une éternité. On ne sait jamais ce qui s'échappe d'un rêve. Et tout à coup, de l'assiette du banquier et de l'assiette de la voisine tombe un navet directement sur le canapé Louis XIV. Oh mon Dieu, mais mon canapé! Oh mais peut-être avec du bicarbonate dessous, ça va aller! Instant, le rêve s'imbibe de l'odeur de navet. Et l'odeur de navet envahit tout l'appartement. Mais il y a trop de bruit pour un rêve. Alors le rêve s'échappe par la fenêtre et une odeur de navet envahit tout le quartier. Et là, il y a une petite fille qui se promène. Elle sent une odeur. C'est l'odeur d'un rêve. Et ce que dit ce rêve parle directement à son cœur. Alors elle le respire fort. Mais il est tellement grand ce rêve et elle se sent tellement petite. Elle le regarde et elle lui dit mais rêve, je ne peux pas te porter, t'es trop grand pour moi, au moindre souffle du vent je t'abandonnerai. Puis peut-être qu'un jour tu m'impressionneras trop et j'aurai peur de toi. Non, je ne peux pas te porter, alors porte-moi. Alors le rêve est rentré dans le cœur de la petite fille. Et Yem a grandi. Il a pris toute la place. Et c'est comme ça que cette petite fille est partie sur les chemins de sa vie en se laissant emporter par son rêve. Et c'est ce que je nous souhaite. De ne pas mettre nos rêves dans nos poches, mais de nous laisser emporter par leur grandeur. Thank you.
marche d'eau. Au milieu des bois blancs, sur l'île d'Orcon, Cory le chasseur d'aigles à tête dorée. Quand commence mon histoire au milieu des boulons, près de la rivière Coudard, auberge d'eau, à l'affût derrière un peuplier, neuf sillons dans l'eau. Cory le chasseur n'en croit pas ses yeux. Quand commence mon histoire au milieu des boulots, près de la rivière Coudard, auberge d'eau, neuf cygnes blancs ôtent leur robe de plumes, neuf demoiselles nues aussi fines que les goulots. Sous le regard du chasseur, les demoiselles se baignent dans la clarté. Cory, ça lui est déjà arrivé, la veille des grandes chasses, de rêver à des femmes au corps de biche. Mais là, il ne rêve pas. Alors, il s'approche, il se faufile entre les robes de plumes, et il en dissimule une sous son manteau. Et puis, les demoiselles quittent l'eau, elles sortent. Et elles sont huit à se saisir de leur robe de plumes, et la neuvième cherche partout, elle ne la trouve pas. Et pendant ce temps-là, Cory la regarde, elle est belle. De l'eau ruisselle sur sa poitrine et sur son ventre de lait. Alors il s'approche doucement, comme elle a froid, comme elle a peur, il lui tend sa couverture de zibeline, et il lui parle doucement. Ô femme cygne, oublie le ciel, oublie le vent, oublie tes sœurs, reste avec moi. Ô femme cygne, oublie le ciel, oublie le vent, oublie tes sœurs et reste. Et elle lui répond, et sa voix disait vrai. Mais comment pourrais-je oublier le ciel? Mais comment pourrais-je oublier le vent? Comment pourrais-je oublier mes sœurs, être celle que je ne suis pas? Comment pourrais-je oublier le ciel? Comment pourrais-je oublier le vent? Comment pourrais-je oublier mes sœurs, être celle que je ne suis pas? Alors Cory le chasseur lui dit, bah, écoute, n'oublie pas le ciel, n'oublie pas le vent, n'oublie pas tes sœurs, mais reste avec moi. Et lui dit, en plus, tu sais, si un jour tu veux partir, si tes sœurs te manquent de trop, si le vent t'appelle, si tu veux ta liberté, je te rendrai ta robe. Tu me le jures, Cory?
Oui.
Ainsi commence mon histoire au milieu des boulots. Une drôle d'histoire. Un homme et une femme cygne. Et pourtant, ils furent heureux. Elle lui donna, dit la légende, 11 garçons. Parfois, Cory était inquiet parce qu'elle s'éloignait et elle regardait tristement le ciel, et surtout quand ses sœurs passaient, il se disait, ça va être aujourd'hui. Elle va me demander sa robe, et puis moi j'ai promis, alors j'irai la déterrer dans la yourte, et puis je lui rendrai, puis elle s'en ira. Mais elle ne le fit pas longtemps. Elle ne le fit pas. Mais parfois, elle se mettait à l'écart. Elle regardait le ciel à l'époque où ses sœurs devaient passer, et elle chantait. Tot soroy, tot soroy, tenger. Svot soroy, svot soroy, tenger. Salkina bain, kuten. Salkitan bain, kuten. Mon cœur saigne, je ne peux pas m'envoler. Si je partais, je ne pourrais emporter mes enfants qui jouent au milieu des bouleaux. Nicori, mon chasseur d'aigles, la tête dorée, et les arbres chantaient Votre soleil, votre soleil, Tenga. Tzvotzoroi, tzvotzoroi, tenger. Salkitan bain, kuten. Oh, mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, attendez-moi. Peut-être un autre hiver, quand j'aurai trop froid. Le ciel me manque, et nous volons chanter. Le ciel me manque et ma liberté. Et le ciel chantait Vot soroy, vot soroy, tenger. Vot soroy, vot soroy, tenger. Salkitan bain, Salkitan bain, kuten. Ce jour tant redouté où la femme cygne réclama sa robe de plume. Elle le fit avec tant de peine, tant de grâce, que le chasseur la prit par la main et l'emmena dans la yourte. Il a creusé dans un coin et il a sorti la robe de plume. Et à peine lui avait-il mis sur le dos qu'elle a essayé de s'envoler par le trou à fumée, alors il l'a rattrapé par ses fines chevilles et lui a dit « Va-t'en, mais pas comme ça. Prends le temps de nous dire au revoir. » Alors elle a glissé entre ses bras, elle s'est posée sur la yourte, sur le sol. Et puis ils sont sortis tous les deux. Et elle a pris le temps, elle a serré entre ses ailes ses 11 garçons sur son ventre de lait. Et puis Cori, son chasseur d'aigle à tête dorée. Et puis elle s'est envolée. Elle a fait 9 fois le tour de la yourte, comme font les Mongols quand se produit une nouvelle naissance. Elle a tendu son long cou blanc vers le nord pour rejoindre ses sœurs. Ainsi finit mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Coudard, auberge d'eau. là où les cygnes blancs ôtent leurs robes de plumes, là où les mystères s'envolent sous la lune.
Et pour terminer, je voulais vous demander, est-ce que, une petite devinette, qu'est-ce qui est le plus grand, la lune ou le soleil?
Les deux.
Ah, les deux.
Le soleil.
À ton avis?
Le soleil.
Le soleil. Oui, non, c'est en fait, non, le soleil, il éclaire le jour. C'est pas très difficile. Alors que la lune, elle éclaire la nuit. La lune se disait, je suis la plus grande de la terre. C'est moi la plus grande de tout. Elle était heureuse, elle chantait. Mais il y avait un lac sur la terre. Et le lac, quand il a entendu ça, il a dit, mais elle se prend pour qui la lune? Alors qu'elle se reflète en moi. Donc je suis plus grand qu'elle. Je suis donc le plus grand de la terre. Il y avait une petite souris qui se promenait au bord du lac. Elle a dit, il est orgueilleux le lac. Moi, dans mon œil, je vois le lac et la lune. Donc je suis la plus grande de la terre. Oui, mais il y avait un hibou qui passait par là. Et puis il avait grand faim. Et quand il a vu la souris, eh ben voilà. Et il a dit, dans mon ventre, il y a la souris, il y a le lac, il y a la lune, je suis le plus grand de la terre. Ça pourrait continuer comme ça beaucoup. Mais il y a une chose qui est encore plus grande. C'est la bouche du conteur ou de la conteuse. Parce que dans la bouche, il y a tous les mots de l'histoire. Mais il y a encore quelque chose de plus. De plus grand encore. Vous savez ce que c'est?
C'est les oreilles.
Eh bien, c'est les oreilles du public. Parce que dans les oreilles du public, on peut mettre toutes les histoires aimantes du monde. Donc, les oreilles sont les plus grandes du monde.
Merci.
J'ai oublié de vous dire une chose tout à l'heure. Je vous ai pas dit le prénom du petit bébé, de l'institutrice.
Là, Jésus.
Mais il s'appelait Yem.
Ce soir, vous avez entendu.
Beaucoup de monde.
Ouais. Pépito, Gigi, Céline. Patrick Fishman sera notre invité le dimanche 13 juillet aux noces de parole. Et il y aura aussi Céline qui comptera avec Nicolas Popovitch aux noces de parole. Et il y a aussi Benoît qui est homme noir qui sera aussi invité aux noces de parole. Hors noces de parole, il y a eu Karine.
Et Pépo et Armel. Merci beaucoup. Et demain, d'autres conteurs et conteuses.
Et oui, d'autres publics. Plus nombreux.
Vous dites-le, hein, venez.
Venez vos amis, parlez-en.
De bouche à oreille.
Au père.
Merci Emmanuel.
Merci beaucoup Emmanuel.
Merci Emmanuel.
Merci. Merci Yem.
Ah, on a répété.
Tu nous l'as
promis. On a répété toute la journée.
On n'avait pas fait avec demain.
Oh là 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 là, on l'a pas fait avec demain.
Ça veut dire merci.
Yem. Ah ouais.
pas mal. C'est le signe de ralliement.
Bravo, merci.